France Musique. Musicopolis. Novembre 1920, Paris, avenue Montaigne. Le Tout Paris branché de 1920 s'est donné rendez-vous le 8 novembre au Théâtre des Champs-Élysées, avenue Montaigne à Paris, pour la création du dernier spectacle de la saison des ballets suédois. Depuis son ouverture en 1913, ce théâtre a fait la preuve qu'il est toujours à la pointe du modernisme en matière de musique et de danse. Cet automne 1920, année d'immédiate après-guerre, le directeur est Jacques Héberto. C'est lui qui a misé sur cette jeune troupe dont le chorégraphe Jean Borlin aura bientôt conquis la capitale. Comme le dit le quotidien Comédia deux jours plus tard, rappelons que le tombeau de Couperin fera affiche toute la semaine avec Maison de Fous, l'étrange et extraordinaire ballet de Monsieur Vikingdal. Location de 10h à 20h, 13-15 avenue Montaigne, téléphone Passy 21-67. Service de taxi et d'autobus à la sortie du théâtre. Le 10 novembre 1920, le quotidien Comédia donne un avis favorable sur la création du tombeau de Couperin, ballet de Jean Borlin sur la musique de Ravel. La répétition générale publique du nouveau spectacle des ballets suédois au Théâtre des Champs-Élysées a été, à la fin du tombeau de Couperin qui fut l'enchantement de la soirée, l'occasion d'une chaleureuse manifestation à l'adresse du compositeur Maurice Ravel, qui était dans la salle. En effet, ce dernier, revenu de Vienne le jour même, entendait pour la première fois à l'orchestre son œuvre qui a été acclamée par le public. Celui-ci a associé dans cette manifestation l'orchestre, sous la direction de M. Engelbrecht, et les artistes du corps de ballet, M. Jean Borlin en tête. Les journaux qui rendent compte de la création du ballet sur la musique de Ravel ne nous donnent pas beaucoup de détails sur le spectacle. On apprend cependant que la jeune troupe des ballets suédois, je cite, « a donné mieux que des promesses et que Paris l'adoptera bientôt ». La grâce de Borlin est un peu lente. Sa cadence, pour être moins nerveuse que celle d'autres danseurs, a un charme tout scandinave et ses réalisations plastiques dénotent un chercheur artiste très en progrès. On peut glaner aussi quelques éléments sur le décor, je cite à nouveau. Monsieur Laprade, dont nous avons eu maintes fois l'occasion d'admirer les notations subtiles et le sens décoratif, et dont les œuvres, exposées en ce moment même au Salon d'automne, ont une si grande séduction, a brossé pour le tombeau de Couperin un décor aux tonalités rares, où la grâce aimable des costumes réalise un tableau d'un charme extrêmement délicat. Peut-être tant d'aimable grâce ne va-t-elle pas sans quelques fadeurs ? Mais c'est une œuvre de petit maître très française et bien faite pour servir de cadre aux évolutions gracieuses d'un ballet qui s'anime aux accords de la musique précieuse de Ravel. Si on a du mal à savoir exactement ce qui se passe sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées sur le plan de la danse, on en apprend en revanche un peu plus sur la musique de Ravel dans Le Figaro du 10 novembre 1920. « M. Maurice Ravel, désireux de rendre hommage à la grande figure du maître organiste de Saint-Gervais, s'est plu à écrire, 2 siècles après sa mort, un tombeau de Couperin. C'est une suite de 6 pièces pianistiques. Depuis peu, leur auteur a instrumenté les 4 principales, sur lesquelles, à son tour, le chorégraphe Jean Borlin a réglé des danses. En passant du piano à l'orchestre, les pages de M. Ravel ont soudain exhalé un charme qu'on ne leur soupçonnait pas. Les développements chorégraphiques, adaptés sur des morceaux nullement écrits à cet effet, ne réalisent jamais d'heureux résultats. L'adaptation du tombeau de Couperin fait exception à la règle. D'ailleurs, M. Jean Borlin l'a fort bien mise en scène, comme Mademoiselle Hasselquist et M. Engelbrecht l'ont supérieurement interprété et dirigé. Ce fut un étonnement et un régal. Depuis peu, nous dit donc Le Figaro en novembre 1920, Ravel a orchestré 4 des 6 pièces du tombeau de Couperin. En fait, pour être très précise, la version orchestrale a été créée en février de la même année. Retour en arrière. C'est très exactement les 27 et 28 février 1920, lors des 119e et 120e séances des concerts Pas de Loup, qu'a été entendue pour la première fois au Cirque d'hiver la version orchestrale du tombeau de Couperin. Le Figaro du 1er mars 1920 est enchanté et s'exclame « Samedi, excellent concert. Triomphe pour l'admirable pianiste claveciniste Madame Wanda Landowska. » Elle jouait Bach au clavecin et Mozart au piano. Le tombeau de Couperin de M. Maurice Ravel reçut sous sa forme orchestrale un accueil assez sympathique. Thank you. Si le Figaro crédite la version orchestrale du tombeau de Couperin d'un accueil assez sympathique, les critiques pourtant ne sont pas tendres. Jean Bernier, dans le Comédia illustré, revient sur le concert de fin février. L'œuvre était au piano trop minutieusement parfaite pour ne pas décevoir à l'orchestre. Elle n'a pas manqué de le faire. Ni la fugue ni la toccata ne figurent dans cette nouvelle version, et le prélude et le rigodon conservent presque toutes leurs qualités. Le menuet et la forlana m'ont paru perdre presque tout leur éclat discret et si subtil. Un autre critique y va encore plus franchement en écrivant « L'habileté du compositeur à manier les timbres paraît insuffisante. Le tombeau de Couperin demeure la captivante suite pour piano qu'il eût dû rester. » Le tombeau de Couperin a donc commencé par être une captivante suite pour piano, nous dit un critique qui n'a pas aimé la version orchestrale de l'œuvre de Ravel, créée fin février 1920. Bon, alors revenons un peu plus en arrière. Depuis un peu moins d'un an qu'elle a été entendue pour la première fois, la version pour piano a gagné le cœur des pianistes qui la mettent souvent à leur programme. La créatrice a été Marguerite Long. Marguerite Long, la créatrice de la version piano du tombeau de Couperin de Ravel, n'a malheureusement pas enregistré l'œuvre. J'ai donc choisi l'enregistrement de Robert Casadesus, un pianiste que Ravel aimait particulièrement. Marguerite Long, en revanche, a publié ses souvenirs sur les circonstances de la création. Alors que je me trouvais à Saint-Jean-de-Luz en 1918, écrit-elle, Ravel, retenu à Paris, me demanda d'envisager une première audition au Pays Basque. Mais le moment ne s'y prêtait guère. Durant ces semaines qui devaient pourtant mener à la victoire, le ciel se chargea des nuages les plus sombres que nous ayons connus depuis la Marne. Après l'armistice, Ravel, très déprimé, neurasthénique, amaigri, dut partir se reposer en Suisse. Les jours passaient. Aucun virtuose, bien que l'ouvrage fût du domaine public, n'osait, par discrétion, s'en emparer. Mais il était clair que cette situation n'allait pas durer. Il fut convenu que je le jouerais à la Société musicale indépendante le 11 avril 1919. J'avais ce jour-là une angine avec forte fièvre et mon médecin m'interdisait de sortir. Je passais outre. En arrivant à Gavo, Ravel me dit « Il va sûrement se passer encore quelque chose. Peut-être que le piano va perdre ses pieds. » Mais tout alla bien et le succès fut immense. L'auteur consentit à venir saluer et de longues acclamations l'accueillirent. C'était la première apparition en public depuis la guerre de celui que la mort récente de Debussy désignait comme l'incontestable et glorieux représentant de notre musique. Dans la salle, chacun réclamait en bis la pièce de son choix. Finalement, je les rejouais toutes. Au moment où Ravel demande à Marguerite Long de bien vouloir créer le tombeau de Couperin, l'œuvre est achevée depuis novembre 1917. Il s'est passé plus de 3 ans entre le début et la fin de la composition. C'est avant la guerre que Ravel a commencé à penser à une suite de danses, comme les écrivaient les clavecinistes anciens. Il s'y met en juillet 1914, alors qu'il séjourne à Saint-Jean-de-Luz, dans son pays basque natal. Dans une lettre à un de ses amis, il écrit qu'il turbine à l'intention du pape. Il fait référence avec humour à un article qui a paru au début de l'année dans le journal Le Temps. Pour contrer le tango, nouvelle danse à la mode jugée dangereuse par l'Église, le pape aurait recommandé aux jeunes gens de danser plutôt la forlane, une danse vénitienne ancienne. Ravel annonce qu'il transcrit une forlane de Couperin et il ajoute « je vais m'occuper de la faire danser au Vatican par Miss Tinguette et Colette Willy en travesti. » Ravel a terminé le prélude, la fugue et la forlane de sa suite française lorsque le 3 août, il s'arrête, interrompu par le déclenchement du conflit mondial. Comme beaucoup de ses contemporains, il est totalement bouleversé par la guerre et il cherche à s'enrôler alors même qu'il avait été réformé pour faible constitution. Sa demande est rejetée et il doit faire intervenir ses relations politiques pour réussir enfin à être reconnu bon pour le service et envoyé comme brancardier près de Verdun en mars 1916. Quelques mois plus tard, malade, il est écarté du front et il reprend en juin 1917 l'écriture de sa suite qu'il va terminer en novembre. Il a ajouté un menuet, un rigodon et une toccata. Il a dédié chacune des pièces à un ami mort au front. La toccata, le dernier morceau, est dédiée à Joseph de Marliave, le mari de Marguerite Long, tombé dans les premières semaines de la guerre en 1914. À propos des dédicaces de Ravel à ses amis tombés à la guerre, Marguerite Long écrit « D'aucuns s'étonnèrent qu'une composition aussi enjouée se chargeât d'une intention aussi pieuse. Certes, on ne trouve là ni plainte ni rythme funèbre. À part la douce sérénité de la fugue, il n'y règne que la grâce, le mouvement et cet amour de la vie que possédaient ces jeunes hommes. Les morts sont déjà bien assez tristes comme cela. Est-il donc nécessaire de leur vouer une constante déploration ? Qu'un musicien de génie leur donne ce qui est à la fois le meilleur de lui-même et le plus proche de leurs enchantements perdus, n'est-ce pas l'offrande la plus émouvante ? Toccata du tombeau de Couperin de Maurice Ravel, joué par Robert Casadesus. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Alain Joubert pour le mixage, Claire Lagarde pour la réalisation et Françoise Monteil pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.